On va laisser la parole à André Robert, donc professeur émérite éducation, culture et politique Lyon 2. André, je te laisse la parole.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à tous les deux, Pierre-Yves et Yves. Donc mon intervention s'intitule peut-être un peu pompeusement « Pertinence heuristique et limite de la notion de forme scolaire », principalement en référence à Guy Vincent, qu'a cité au début Yves Duterque tout à l'heure. Alors, j'ai bien conscience que je vais être amené à dire des choses que beaucoup d'entre vous savent déjà, mais peut-être pour les étudiants et les étudiantes, sera malgré tout un apport. Hein. Donc, je vous prie d'être indulgent par rapport à ce que je vais être amené à dire pour ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous qui avaient fréquenté principalement l'œuvre de Guy Vincent. Donc, je vais faire une très brève introduction et mon exposé se fera en 5 points. Un point consistera à explorer très brièvement la référence historiographique principale à laquelle Guy Vincent dit emprunter sa notion de forme scolaire. Dans un deuxième temps, je développerai la thèse principale de Guy Vincent et de ses collaborateurs. Dans un troisième temps, je parlerai de l'évolution, voire du renversement relatif de cette thèse par Guy Vincent lui-même. J'en proposerai une esquisse d'analyse critique et, dans un dernier temps, j'évoquerai là aussi très brièvement quelques autres notions disponibles dans cet espace notionnel. Des notions peut-être pas alternatives, mais en relatif décalage par rapport à la thèse centrale de Guy Vincent. Alors, en introduction, je pourrais indiquer qu'entre 2005 et 2015, il a été repéré une montée spectaculaire du syntagme forme scolaire dans le vocabulaire éducationnel. Le nombre d'articles mentionnant cette expression d'après Google Scholar passe de moins de 10 en 1980, date à laquelle Guy Vincent publie son premier ouvrage issu de sa thèse « L'école primaire française », paru aux presses universitaires de Lyon, et théorise une expression qui existait déjà, à plus de 150 en 2005, pour culminer à près de 400 en 2015, et rester assez stable dans les deux années qui suivent. Donc c'est un peu une expression devenue assez bateau, hein, si vous me permettez cette expression. C'est la raison pour laquelle, en juin 2017, à Lyon 2, nous, ECP, donc notre laboratoire, a organisé un colloque qui, en parodiant le titre de la deuxième contribution importante dirigée en 1994 par Guy Vincent, « L'éducation prisonnière de la forme scolaire », ce colloque s'était interrogé de la manière suivante, « La forme scolaire prisonnière de son succès », qui a donné matière à un ouvrage publié aux presses, aux éditions universitaires de Lorraine. Alors, du coup, oui, il y a, dans cette inflation d'usage, il y a un risque d'aseptisation et d'assimilation de la forme scolaire à école, tout simplement. Hein. Et en ce sens, peut-être, ça a peu d'intérêt. Hein, Alors, l'objectif que je me propose, c'est d'essayer de rendre au syntagme ses origines et sa pleine valeur, d'abord dans son expression exacte. L'expression exacte employée par Guy Vincent, c'est « forme scolaire ». Des relations sociales, hein, forme scolaire des relations sociales. Il y a une autre expression qui est utilisée par Guy Vincent qui est mode de socialisation scolaire, opposé à ce qu'il va appeler à la fin de son œuvre mode de socialisation démocratique. Alors, essayer de rendre son intérêt heuristique et polémique à cette notion de forme scolaire en interrogeant son apport et ses limites. Quel est son pouvoir d'éclairage? Quels sont ce que je pourrais appeler ses éventuels points aveugles? Quant à la relation avec l'enseignement professionnel qui est au centre du séminaire, hein, je ne l'aborderai qu'incidemment. Je pense qu'il appartient au collectif d'élaborer la problématique, hein, mais je l'aborderai par des biais. Alors, premier point, les références historiographiques et la référence historiographique principale à laquelle Guy Vincent dit emprunter la notion. Alors, Le contexte dans lequel Guy Vincent élabore sa thèse et donc va publier l'ouvrage « L'école primaire française en 1980 », c'est un contexte des années 70 du XXe siècle, et qui est caractérisé par plusieurs publications dont il va... Il les cite, mais il va en retenir une plus particulièrement. Alors, ces publications importantes, c'est « Le français national » de René Balibar et Dominique Laporte, publié en 1974 avec une introduction des marxistes et Étienne Balibar et Pierre Macheret. L'expression « forme scolaire » est dedans. Bon, il faudrait pouvoir explorer un peu plus, je l'ai fait, mais je ne m'y attarderai pas, évidemment. Alors, il faut lier cet ouvrage à l'article « Princeps » de Louis Althusser sur les appareils idéologiques d'État, qui est paru en 1970 dans la revue « La Pensée ». Alors, évidemment, un ouvrage majeur qui influence, j'essaierai de vous le montrer, décisivement Guy Vincent, c'est « Surveiller et punir » de Michel Foucault en 1975, et sa référence principale, c'est un ouvrage d'histoire de Chartier, Roger Chartier, Marie-Madeleine Compère et Dominique Julia, « L'éducation en France du XVIe au XVIIe siècle ». C'est dans cet ouvrage, et il dit que c'est à René Chartier qu'il doit la notion de forme scolaire, Guy Vincent. En fait, c'est trois auteurs. Alors, quelques mots sur cet ouvrage d'histoire qui essaye de montrer que le mode d'acquisition des savoirs, mode empirique d'acquisition des savoirs, cède peu à peu le pas à partir du XVIe siècle, sous la pression des églises à des formes nouvelles d'enseignement et de moralisation. Donc je me repère dans mes feuilles. Des choses bien connues maintenant. L'un des facteurs fondamentaux par lesquels l'école est promue, c'est les réformes catholiques et protestantes, enfin la réforme protestante et la contre-réforme catholique. De citer Luther, puis Calvin, 1537. Calvin, pleinement conscient de la nécessité d'une catéchèse particulière pour la jeunesse, contrôlée selon une forme scolaire. Voilà la première occurrence à laquelle se réfère Guy Vincent, et il montre ainsi donc ce rôle des églises dans, évidemment, la diffusion du catéchisme et dans la diffusion du catéchisme sous une forme scolaire. Donc, les auteurs montrent la multiplication des feuilles de catéchisme ou petits livrets dont la voie essentielle de diffusion est l'école. L'école, c'est d'abord la leçon de doctrine chrétienne. Puis d'évoquer les déclarations royales en France de 1698, puis 1724, qui sont les premières déclarations faisant obligation de scolarité, mais qui sont en fait des dispositifs principalement tournés vers les Huguenots, vers les protestants. Et l'appréciation de Chartier, Compère et Julia, c'est que la déclaration, notamment celle de 1698, organise un réseau de surveillance, d'abord sur les maîtres, important, un réseau de surveillance, d'abord sur les maîtres, ensuite sur les parents. Donc, transmission d'un savoir normatif, alors à l'intérieur, donc ça serait une nouveauté, d'une relation maître-élève. C'est là l'essentiel, en conquête continue sur la formation par la parole du père ou de l'aïeul et le spectacle du monde. Donc, substitution d'un mode de transmission à un autre. Quelques développements, mais je ne m'y attarde pas, relativement intéressant en termes de profondeur historique par rapport à notre objet concernant la formation professionnelle, puisque aux pages 222 et suivantes de leur ouvrage, Chartier, Compère et Julia, montre que l'apprentissage va faire lui aussi l'objet, à partir du XVIIe, mais surtout XVIIIe siècle, d'une réflexion et d'une transformation. Hein. Ce mode de formation est ressenti au XVIIIe comme insuffisant, alors notamment du point de vue de la morale sociale, mais aussi du point de vue de la pratique professionnelle. Et donc, commence à être réclamée, d'après ces auteurs, à ce moment-là, une instruction plus raisonnée, ne s'appuyant pas seulement sur l'imitation de l'exemple donné, mais aussi sur la maîtrise d'un savoir théorique. Donc, voilà, hein, les projets se multiplient pour donner à l'éducation artisanale une forme réglée et scolaire. Voilà une autre occurrence que l'on trouve dans cet ouvrage. Un contenu où la connaissance devient nécessité première avant l'expérience. Et de développer ici, il y a toute une série d'exemples sur les écoles gratuites de dessin, qui se développe en France, à Paris, mais pas seulement, à Amiens également, dans d'autres villes de France. Alors, à l'intention d'un public qui n'est pas encore un public qu'on pourrait appeler aujourd'hui populaire, mais qui est un public d'artisans, compagnons ou apprentis, hein, auquel on veut donner une formation un peu plus théorisée. Conclusion de ce passage d'après les auteurs, c'est une troisième occurrence de forme scolaire. Les équilibres sont difficiles à tenir dans une forme scolaire originale qui mêle les âges et les conditions, qui révèle chez les notables urbains, portant aussi par rapport à Guy Vincent, un souci d'éducation populaire, dans le peuple un désir d'instruction, mais qui ne se résout pas à choisir entre la formation d'artiste et d'artisan. Voilà, hein, ça c'est pour les références auxquelles Guy Vincent dit puiser l'expression, le syntagme qu'il va lui théoriser. Guy Vincent, évidemment, s'intéresse à l'histoire, mais il est principalement sociologue. Hein. Donc deux ouvrages. Le premier, je les ai cités tous les deux, mais je cite à nouveau, l'école primaire française, 1981, presse universitaire de Lyon, et un autre en 1994, dirigé par Guy Vincent, un ouvrage collectif dirigé par Guy Vincent, mais dans lequel les contributions de Bernard Lahire et de Daniel Thin sont particulièrement importantes, je vais en dire quelques mots, « L'éducation prisonnière de la forme scolaire », 1994, presse universitaire de Lyon. Et donc, je m'appuie sur cet ouvrage et sur l'introduction de Guy Vincent pour essayer de synthétiser la thèse dont Yves a dit quelques mots tout à l'heure dans son introduction. Alors, l'accent est mis dans la contribution de Guy Vincent lui-même sur le rapport entre la forme scolaire et la nouvelle forme de domination, les termes sont évidemment importants, liés à une réorganisation du champ politico-religieux d'une part, sur le rapport étroit entre processus de scolarisation et processus d'urbanisation d'autre part. Alors, cette théorisation de la notion de forme scolaire est mise sous le couvert d'une proposition de Bourdieu-Passeron, hein, par Vincent, Vincent dit que le pouvoir de construction des faits s'affirme dans le travail sur les faits. Hein, voilà. Et donc, il estime que le travail qu'il accomplit sur la notion participe à la construction des faits, bien entendu. Et donc, c'est une construction qui va être proposée. Alors, Yves l'a dit tout à l'heure, la notion de forme est référée par Guy Vincent, non pas tant à une référence aristotélicienne, mais plutôt à une référence liée à la Gestalt théorie, hein, aussi au philosophe français qui emprunte à cette Gestalt théorie, Merleau-Ponty. Hein. La forme, c'est pour Vincent ce qui n'est ni chose ni idée, hein, ni chose ni idée. Ça n'est pas non plus une institution, elle ne se confond pas avec l'institution scolaire. C'est une unité qui, dit-il, n'est pas celle de l'intention consciente. Hein. Donc, unité. Parler de forme scolaire, c'est rechercher ce qui fait l'unité d'une configuration. Tu as utilisé ce terme, et bon, il dit ce qui fait l'unité d'une configuration historique particulière, apparue dans certaines formations sociales, à une certaine époque, et en même temps que d'autres transformations. par une démarche à la fois descriptive, donc pouvoir de description conféré à cette notion, enfin, telle qu'elle était utilisée par Chartier, Comper et Julia, mais aussi démarche compréhensive. Et ça, c'est plus l'apport que Guy Vincent entend faire. Ce qui fait l'unité de la forme scolaire, son principe d'engendrement est défini comme le rapport à des règles impersonnelles. Voilà, je pense que là, on tient la thèse centrale. Rapport à des règles impersonnelles, rapport observé par les élèves, mais aussi par les maîtres. Cette forme se diffuserait des écoles des frères, à partir du XVIe siècle, et notamment de l'école créée par Jean-Baptiste de La Salle, à l'école mutuelle et à l'école de la République. Donc, entendons ici la Troisième République française. Alors, certes, bien des choses changent, mais sans doute pas ce par quoi nous avons défini la forme scolaire. Donc, la thèse de Vincent, c'est qu'à partir des XVIe, XVIIe siècles, s'installe une forme scolaire qui, depuis, connaît une multitude de variantes. Ça, c'est sa thèse de l'époque, 1980-1994. Bon, alors toujours dans cette introduction, Vincent se démarque de Durkheim, il prétend critiquer le positivisme et le causalisme de Durkheim, explicitement. Il récuse la pseudo-genèse d'une histoire traditionnelle de l'école, puisqu'il essaye de montrer, c'est objet de discussion aussi par rapport à d'autres historiens ou socio-historiens, que avant cette phase qui commence au XVIe siècle, on ne peut pas parler à proprement parler d'école. Il essaye de montrer aussi que l'origine qu'on fait remonter aux pédagogues grecs n'a rien à voir avec ce qu'on entend par école au temps de la forme scolaire, en coïncidence avec la forme scolaire. La forme scolaire est liée à d'autres formes, notamment des formes politiques et, on le verra, urbaines. Ce qui apparaît à une certaine époque dans les sociétés européennes, c'est une forme inédite de relation sociale entre un maître au sens nouveau du terme et un écolier, relation que Guy Vincent appelle pédagogique. On verra aussi qu'il a une vision très critique de la pédagogie. Elle est inédite en ce sens qu'elle est distincte, qu'elle s'autonomise par rapport aux autres relations sociales. Le maître n'est plus un artisan transmettant des savoir-faire à un jeune homme, et pendant longtemps, dans les villes, les maîtres écrivains, justement, résistent à l'intrusion des maîtres d'école. Thèse classique, le basculement se fait par le fait que antérieurement apprendre se faisait par voir faire et oui dire, alors que donc apprendre n'était pas distinct de faire, apprendre va devenir maintenant spécifique. Alors, quelles caractéristiques de la forme scolaire et de la relation pédagogique? Ça a été dit par Yves tout à l'heure en rappelant l'interview de Guy Vincent avec Yves Rotter et Courtebras, j'ai oublié son prénom. Christian, d'accord. Autonomie de la forme scolaire instaure un lieu spécifique, l'école, voire les écrits de Jean-Baptiste de La Salle. Un temps spécifique, le temps scolaire, à la fois comme période de la vie et comme temps dans l'année et comme emploi du temps spécifique. Troisième caractéristique, instauration d'un ordre, ça a été dit, mais d'un ordre coïncident avec un nouvel ordre urbain, une redéfinition des pouvoirs civils et religieux. La forme scolaire participe de cette instauration. Et donc, traduction dans le vocabulaire de l'époque de Guy Vincent, c'est une vaste entreprise d'ordre public à condition de ne pas la réduire à la simple police. Donc vous voyez là tout de suite l'arrière-plan foucaldien, hein, qui est évident, enfin moi il m'a sauté aux yeux dès les premières lectures. Il s'agit d'obtenir la soumission, l'obéissance ou une nouvelle forme d'assujettissement. Il n'y a pas jusqu'à ce terme d'assujettissement, hein, qui ne se trouve chez Foucault. Les allusions à Foucault sont rares, mais quand même présentes, hein, dans l'ouvrage. La catéchèse se fait désormais sous forme scolaire. Là, il reprend des choses à Chartier et collaborateurs. Que fait l'enfant ainsi? Il apprend l'obéissance à des règles. Bon, des manières diverses de se comporter. Et dans l'école des frères, les sentences du bon comportement, on penserait au bon dressement, hein, des moyens du bon dressement chez Foucault dans Surveiller et punir, et les sentences sont inscrites sur les murs. Au passage, il y a contestation dans ce texte de 1994 par Vincent de l'idée que la fonction de l'école serait de transmettre des savoirs et des savoir-faire. Hein, quand même, c'est pas au centre de l'école pour lui. Hein, où les savoirs et les savoir-faire seraient plutôt en décalage, seraient plutôt prétexte, selon lui. Hein. Il en donne la preuve, qui a été contestée d'ailleurs, que apprendre à écrire un grand nombre d'écritures différentes, c'est quelque chose d'inutile et qui était pratiqué notamment chez les frères. L'idée centrale, c'est que cette forme scolaire, elle vise à produire des disciplines scolaires. Des disciplines scolaires, en insistant évidemment sur le double sens de discipline, et plutôt sur le sens de dressement. Et alors, c'est des disciplines qui se traduisent par des exercices, etc., des exercices autonomes, auto-référencés, qui sont eux-mêmes leur propre référenciation. Hein. Et on verra tout à l'heure la critique que Vincent fait la discipline au bénéfice de la science, de la discipline scolaire, au bénéfice de la science et du savoir scientifique. Qu'est-ce que c'est que la relation pédagogique? C'est pas une relation de personne à personne, mais une soumission du maître et des écoliers à des règles impersonnelles, je l'ai déjà dit. Telle est, pour l'essentiel, la forme scolaire. Donc, je l'ai dit, forte dimension foucaldienne. Hein, voilà. Alors, c'est ce qui permet, selon Vincent, de comprendre les variantes de la forme scolaire. Dans les époques ultérieures où la règle ne sera plus imposée, mais intériorisée, ou soi-disant intériorisée par les élèves, au moment de cet écrit-là introductif, Vincent tient encore que ça n'est qu'une variante, hein, cette forme scolaire. Hein. De même, dit Vincent, le citoyen respectueux et obéissant, connaissant ses droits, mais surtout ses devoirs, qu'entendra former l'école de la Troisième République, est bien encore un écolier, enfin, au sens où il l'a défini ici. Donc, il conclut cette introduction, disant que l'émergence de la forme scolaire contemporaine est contemporaine d'un changement dans le politique et dans le religieux, et la sociogénèse permet d'établir qu'il existe des rapports entre la forme scolaire et d'autres formes sociales, notamment politiques. Alors, là, je pourrais renvoyer à la conclusion sur laquelle est basé ce texte de 1994, c'est la conclusion de 1980, page 265 de l'école primaire française, pour l'essentiel, c'est-à-dire pour ce qui nous a paru définir la forme scolaire, celle-ci est liée aux formes concrètes du pouvoir, d'exercice du pouvoir dans les sociétés urbaines. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas s'étendre dans les zones autrefois rurales le réseau des équipements socioculturels avec leurs éducateurs animateurs, etc. Et il y voit une diffusion généralisée de cette forme scolaire. Alors je voudrais, j'espère pas être trop long et trop rébarbatif, mais parler de la contribution de Bernard Lahire dans cette introduction l'éducation prisonnière de la forme scolaire en 1994. En effet, Bernard Lahire va, lui, nous parler des formes sociales, scripturales scolaires et des formes sociales orales, et il va parler, lui, il va introduire dans la notion de forme scolaire la notion de forme scripturale scolaire. Alors, on voit bien évidemment le souci du sociologue et des apports de Bernard Lahire. Alors, concession à son maître Guy Vincent, à savoir que l'école est un lieu d'exercice du pouvoir, mais lui, il va contrebalancer quand même la thèse de Vincent en mettant l'accent sur la transmission des savoirs, là où Vincent le faisait quand même assez peu, hein, ou, trop peu à mon sens, à son gré. Donc, l'école et la culture élite, écrites, pardon, sont liées dans un tout socio-historique. Donc, il parle de forme scripturale scolaire des relations sociales, et il montre en plusieurs points que l'école est un lieu spécifique qui est rendu nécessaire par la diffusion de la culture écrite. Hein. L'écriture rend de plus en plus indispensable l'apparition d'un système scolaire. Pour lui, les savoirs sont quand même tout à fait au centre. Hein. L'école et la pédagogisation des relations sociales d'apprentissage sont liées à la constitution de savoirs scripturaux formalisés, savoirs objectivés, délimités, codifiés. Et il montre comment diverses activités, le dessin, la musique, l'activité physique, l'activité militaire, la danse, ne se font pas sans une certaine forme d'écriture de chacune de ces activités. Troisième point, cette systématisation de l'enseignement produit des effets de socialisation durables. Quatrième point, là c'est retour à la thèse centrale de Vincent, l'école est un lieu d'apprentissage de forme d'exercice du pouvoir. Là il introduit une référence qui n'était pas à mon sens chez Vincent, une référence à Max Weber et à la notion de domination légale. Voilà, cinquième point. Pour accéder à n'importe quel type de savoir scolaire, il faut maîtriser la langue écrite. La formation scolaire de relations sociales est la forme sociale constitutive de ce qu'on peut appeler un rapport scriptural scolaire au langage et au monde. Troisième apport dans cette introduction, c'est celui de Daniel Tin, et c'est en lien avec ce qui a été dit de l'échec scolaire et ce qui sera sans doute dit tout à l'heure par Pierre-Yves. Ce que développe Daniel Tin dans cette introduction, c'est que la théorie de l'échec scolaire est rendue possible par cette analyse via la forme scolaire, qui relève à la fois d'une anthropologie du pouvoir et d'une anthropologie de la connaissance. Dans le même temps où des savoirs, des rapports au langage et au monde se construisent, des modalités du rapport à autrui s'apprennent dans des formes de relations sociales spécifiques correspondant à des modalités de pouvoir. Lui, il fait une référence à Foucault, et voilà, il montre aussi la diffusion de la forme scolaire dans différentes sphères d'activité humaine, et cela de plus en plus. Alors, voilà, j'en termine avec ce deuxième point, et en notant que dès les contributions à cet ouvrage, certains usages de la forme scolaire, hein, dans la deuxième partie de l'ouvrage, paraissent plus aseptisés, privé de la dimension critique qui accompagne le concept tel que défini initialement par Guy Vincent. Hein, parce que dans le concept tel qu'il est développé, il y a une forte dimension critique de type foucauldien. Ce qui ne veut pas dire que les contributions qui sont dans l'ouvrage ne sont dépourvues d'intérêt. Je soulignerai particulièrement, peut-être pour notre problématique, celle de Christian Marois, hein, la formation post-scolaire, extension ou infléchissement de la forme scolaire. Alors certes, il ne lui donne pas la forme scolaire, lui, toute la dimension critique de Vincent, mais il s'interroge sur la signification des formations post-scolaires. Et peut-être cette thèse soutenue par Christian Marois dans cette contribution pourrait-elle nous être intéressante et pourrait être intéressante à interroger. Les formations post-scolaires, dit-il, disposent d'une autonomie relative plus faible que l'école. Bon, à à discuter, parce que les acteurs et les institutions dépendent beaucoup plus des acteurs et de leur environnement. Donc problème des débouchés, du public, des subventions, et il suggère de partir des zones de dépendance majeures dans lesquelles se situent les actions de formation, en le situant dans le système d'interdépendance dans lequel elles sont nécessairement partie prenante. Il y a aussi une contribution de la Québécoise Marcelle Hardy, qui pourrait être tout à fait intéressante, sur l'implication ou la résistance des élèves dans la forme scolaire. Hein. Alors, je n'ai pas le temps de développer. En juin de 2017, je m'étais interrogé dans le colloque sur les résistances à la forme scolaire, les alternatives, celles que tu as évoquées dans ton introduction. Troisième temps. Ça va, je suis dans les créneaux. Troisième temps, c'est l'évolution de la thèse de Guy Vincent. L'évolution de la thèse de Guy Vincent, parce que Guy Vincent, alors dès les pages conclusives de l'éducation prisonnière de la forme scolaire, a bien conscience que dans ses propos à lui, il y a quelque chose comme un impensé, comme quelque chose qui manque. C'est la référence central quand même au savoir, hein, enfin, dans l'expression même de la thèse. Il manque aussi l'éventuel caractère émancipateur de l'école, hein, en mettant l'accent très spécialement sur la dimension de contrôle social et de surveillance, de dressement. Passe à côté. Pas la naïveté de ne pas en avoir conscience, du rôle potentiellement émancipateur du savoir. D'où, si vous voulez, l'évolution de ces thèses. Et en 2004, il dit « Aujourd'hui, je pense que le terme variante que j'employais jadis est trop faible et qu'il y a une alternative à la forme scolaire, une alternative démocratique qu'il va appeler socialisation démocratique, ou en mobilisant le concept d'instruction publique, alors non pas au sens de la Troisième République française, mais au sens originaire de Condorcet. Alors, évidemment, je vous passe les références à Condorcet, hein, enfin les références de détails à Condorcet, mais ce que retient Vincent de l'œuvre de Condorcet sur l'éducation, c'est le fait que l'instruction publique crée une nouvelle forme de relation politique, la citoyenneté. Alors, il va prendre, là encore, des références à l'histoire et aussi à des expériences pédagogiques contemporaines. Référence à l'histoire, les écoles centrales créées par la Révolution française, il y a... on peut se référer à la vie d'Henri Brulard de Stendhal, hein, qui parle de son expérience à l'école centrale de Grenoble. Qu'est-ce qui se passe dans ces écoles centrales qui ont eu une durée de vie très, très courte? C'est qu'il y a choix des cours et appropriation critique des savoirs scientifiques. Voilà, c'est ça qui paraît extrêmement important. Autre référence historique de Guy Vincent, c'est la aussi très brève expérience de l'école normale de l'an 3, hein, qui n'est pas l'ancêtre des écoles normales façon Guizot et façon Ferry, hein, mais qui est une école normale qui était censée former diffuseurs des idées scientifiques pour les répandre dans l'ensemble du territoire français. Hein. Ça n'a duré que 4 mois, ça a été très vite invalidé en 1795. Mais qu'est-ce qui retient l'attention de Guy Vincent là-dedans? C'est que les plus grands savants y enseignent. L'ensemble des sciences ayant une unité, et c'est en quelque sorte l'incarnation de la raison. Et, deuxième point, je vous avais dit qu'il y avait une approche critique de la notion de pédagogie également chez Vincent, la pédagogie ne vient pas transformer une science en savoir scolaire ou discipline scolaire. Autrement dit, l'exercice même de la science, ou la science en train de se dire par les savants eux-mêmes, est en quelque sorte à soi-même sa propre pédagogie. Et ça, ça paraît extrêmement important à Guy Vincent. Alors, il insiste beaucoup là-dessus, et il a cette formule dans un texte de 2004. Il faudrait aller jusqu'à soutenir, vous voyez, il renverse en quelque sorte sa thèse, à soutenir que la socialisation démocratique exclut la forme scolaire. Bon, alors qu'est-ce que c'est que, pour lui, la socialisation ? C'est surtout une auto-socialisation, hein, c'est se socialiser, c'est s'approprier quelque chose, et notamment s'approprier la science. Hein. Voilà, je passe. J'ai dit socialisation démocratique ou instruction publique. L'instruction publique, dit-il, oppose la règle à la raison, enfin, oppose la raison à la règle, plutôt, hein, il vaut mieux le dire dans ce sens-là, hein, voilà, et elle est liée à une révolution politique. L'enfant qui a eu libre accès à l'instruction publique, ainsi entendu, est autonome. Alors, vous voyez, là, il y a quand même une expression un peu, je veux dire, idéalisée, hein, relevant enfin, d'une espèce d'idéal régulateur. Hein, enfin, je sais pas. L'enfant qui a eu libre accès à l'instruction publique, ainsi entendu, est autonome, citoyen d'une république, et ne peut plus tomber sous le joug des tyrans. C'est ce changement fondamental dans la forme de l'autorité que Kant analysait également. Alors, en conclusion de ce texte de 2004, Guy Vincent se demande s'il faut déscolariser l'école. Hein, dans les alternatives, il y a l'alternative Hiltienne, hein, déscolariser l'école, déscolariser la société. Non, il dit, il faut revenir au concept d'instruction publique. Ôter à l'enseignement son caractère disciplinaire, tout en lui donnant à la fois l'unité est le sens indispensable dans une société caractérisée par la pluralité des cultures et par la démocratie. Voilà, et lorsqu'il se réfère à des expériences contemporaines, Guy Vincent, qui avait conduit des enquêtes dans la ville voisine de Lyon, Saint-Fons, nous décrit des moments pédagogiques, notamment une leçon d'astronomie. Hein, mettons ainsi ses pas dans ceux de Jean-Jacques Rousseau, hein, célèbre leçon d'astronomie dans la nature. Là, c'est une leçon d'astronomie dans l'école, et, où il prétend que le dialogue avec les enfants, le fait que les enfants sont amenés à construire le savoir, etc., fait éclater la forme scolaire, dit-il. Travail en groupe, travail de synthèse de l'enseignante. Hein, la vérité ne peut être versée d'un esprit dans un autre. Il faut la conquérir en partant des apparences, etc. Bon, des choses qui, dites comme ça, peuvent paraître quand même, avec un certain recul, relativement naïves quand même. Bien. Voilà. Alors, quelques éléments d'analyse critique de ma part sur cette notion de forme scolaire, avant de terminer par quelques notions, autres notions disponibles dans l'espace pour parler de l'école. Alors, il me semble qu'au niveau descriptif, hein, l'opérativité de la notion de forme scolaire, bon, on peut l'appeler aussi autrement, me semble incontestable, hein, lorsque prise dans son acception de forme scolaire des relations sociales, elle décrit la manière dont, à travers des variantes et des évolutions, les sociétés contemporaines, la française en particulier, ont placé en leur épicentre l'institution scolaire, développant toujours plus ses programmes en durée et en intensité, ce que Marie Durubella a appelé l'inflation scolaire, hein, la question pédagogique à la fois dans l'école et hors l'école. Bon, dans le livre que j'ai cité, là, le colloque de 2017, il y a un article de Rémi Deslippère et Simon Kechichian, je crois, où il montre que la pénétration de la forme scolaire dans la périphérie de l'école, hein, dans les milieux éducatifs. Et troisièmement, la scolarisation, c'est ce que je viens de dire, la scolarisation d'un nombre toujours accru d'activités en lien avec la nécessité d'une formation tout au long de la vie, ce que vous avez évoqué, ce que Yves a évoqué tout à l'heure. Ça, c'est à ce niveau-là, pas de problème. Deuxième niveau, lorsqu'on considère la dimension critique et je dirais anthropologique et l'interprétation que donne Guy Vincent, là on peut émettre des opinions un peu variées. Je rappelle, que fait l'école ? Elle éduque, c'est-à-dire assujettie à des règles. En cela, elle est un aspect du pouvoir. Hein. Et j'avais donné l'autre partie de la citation tout à l'heure. Alors, la notion contient, à mon sens, une puissance critique consubstantielle à sa portée explicative. En contestant le grand récit scolaire républicain, elle apporte une contribution spécifique à l'étude de phénomènes de mise en tutelle des masses quand il n'est plus possible d'exclure celles-ci de toute forme de savoir un peu formalisé. Et je l'ai dit, j'ai essayé de le faire sentir à plusieurs reprises dans mon exposé, c'est Foucault, hein, Foucault de Surveiller et Punir, qui est derrière les analyses de Vincent. Mais il me semble quand même qu'il y a une partie des analyses de Foucault que Vincent laisse dans l'ombre. Alors certes, une partie qui est esquissée en 75 et qui est développée dans ce qui sera publié ensuite dans Dit et écrit, hein, je crois, première publication en 2001, mais voilà. Donc Vincent met plus l'accent sur les aspects procéduraux que sur les contenus des savoirs à transmettre. Alors, indéniablement, hein, l'auteur de Surveiller et punir inclut dans sa critique la référence à la dimension émancipatrice et libératrice des savoirs scolaires comme élément constitutif du grand récit. Il le conteste, donc, évidemment. Mais il convient aussi, selon Foucault, d'être plus sensible à ce que produit dans la forme scolaire. Enfin, il n'emploie pas l'expression, hein, et j'ai vérifié hier dans Dit et écrit, il n'y a pas d'entrée pédagogie, école, etc. Hein. L'assujettissement aux règles impersonnelles, hein, est plus sensible à ce que signifie l'assujettissement. Alors là, je cite Foucault, « non seulement du négatif et de la déduction, mais aussi de l'individuation et de la production au sein du collectif. » Et je cite, « les disciplines sont à prendre comme ce qui permet d'ajuster la multiplicité des hommes et la multiplication des appareils de production. Et par là, il faut entendre non seulement production proprement dite, mais la production de savoir et d'aptitude à l'école, la production de santé dans les hôpitaux, etc. » Donc il y a un retournement possible. Alors, il est esquissé, hein, évidemment, il est assez minime, et je tire peut-être un peu le texte à moi, mais il n'empêche. Ultérieurement dans sa réflexion, Foucault tendra à conforter cette ligne d'analyse à travers la richesse et la subtilité de ses dits et écrits. Là, je m'appuie beaucoup sur une analyse qu'a faite un membre de notre laboratoire, Jean-Pierre Audureau, hein, philosophe spécialiste de Foucault, et qui a attiré mon attention sur des aspects de Dit et écrit où il y a ce retournement de l'assujettissement en possible subjectivation. Hein. Alors, on pourrait dire que, ayant abandonné l'illusion d'une libération ou émancipation radicale par l'école, une pédagogie fondée, là je reprends les termes de Foucault, sur une éthique du souci de soi, conduirait à imaginer le rapport scolaire, alors peut-être souhaitable et possible, comme une domination d'un type spécial, c'est toujours une domination, mais distincte de l'exercice d'un pouvoir, où serait ménagée la possibilité pour un sujet, en même temps forcément assujetti, mais sujet précisément parce qu'assujetti, si on suit Foucault, de développer l'aventure de devenir soi dans une rencontre avec des savoirs dans laquelle il serait toujours peu ou prou question de vérité rationnelle. Donc, lorsqu'il évoque de possibles rencontres de ce type, alors je ne sais pas, troisième ou autre, qui au sein du cadre scolaire et dans cette aventure de devenir soi altère sans aliéner, rencontre relevant de quelque chose comme, alors l'expression est de Foucault là aussi, d'une érotique du savoir, Foucault lui-même nous permet sans doute d'esquisser une perspective de renouvellement de la possible de la forme scolaire, débarrassée des illusions du grand récit. Hein. Donc ça me paraît, bon, si vous voulez, une position critique qui conserve beaucoup d'éléments de la thèse de Vincent, mais qui l'illustre moins naïvement que je termine hein, qu'il illustre moins naïvement que bon, cette description d'une séance scolaire idéale dans une des écoles de Saint-Fond. Et il me semble que là, on met plus l'accent sur, ce qui me paraît extrêmement important, sur la notion de contradiction, de force en tension, de force contraire qui travaille la forme scolaire. Alors, il me reste 5 minutes, hein, j'ai vu circuler le papier, donc je ne vais pas développer du tout. Je vais, en conclusion, après avoir dit ce que je viens de dire, évoquer quelques thèses d'autres auteurs qui sont disponibles, si j'ose dire, sur le marché explicatif ou le marché des hypothèses. Je prendrai... par exemple, les thèses qui sont développées par Bernard Schneuvli et Rita Hofstetter, présents aussi dans ce livre, qui préfèrent parler de forme école plutôt que de forme scolaire référant trop pour eux à Guy Vincent et à certaines de ses limites, même s'ils lui reconnaissent eux aussi un pouvoir heuristique. Et il se réfère ici à Hamilton et à sa théorie du schooling en 1989. Autres auteurs que l'on peut mobiliser dans le champ, c'est, excusez-moi, Ramirez et Bolli, Francesco Ramirez et John Bolli en 1987, qui développent une théorie du mass schooling et de la worldwide institutionalization of, de ce nouveau modèle. Il faudrait développer. Antonio Novoa, lui, parle de diffusion internationale d'un modèle scolaire. Hein, voilà. Et j'accorde, pour ma part, beaucoup d'importance au travail. Alors, on cite très souvent Tiak et Kuban pour la notion de grammar of schooling, grammaire scolaire, grammaire d'école. Moi, je me réfère plus volontiers toujours à Tiak, mais Tiak et Tobin. Hein, why it is so hard to change the grammar of schooling? Why has it been so hard to change? Donc, la thèse développée par Tiak et Tobin dans un article de 1994, enfin, l'interrogation qu'ils développent, c'est pourquoi y a-t-il une grammaire scolaire, une grammar of schooling, qui est considérée à la limite comme universelle. Ils prennent le cadre américain hein, et ils interrogent la manière dont ce cadre a été critiqué, travaillé par les réformes, sans pour autant... sans pour autant fondamentalement changer. Hein. Il y a bien des changements, des petits changements, mais sur le fond, ils disent que le public a une idée de l'école et que cette idée, et les enseignants aussi, est très difficile à changer. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent de leur vœu? Ils appellent de leur vœu un débat public intense et permanent à propos des fins et des moyens de la scolarisation, incluant des réexamens réguliers de ce qu'est la vraie école, entre guillemets, et quelle sorte, c'est ma traduction, hein, donc, et quelle sorte d'école expérimentée peut réaliser les nouvelles aspirations. Ah, c'est au fond un peu ce qui était vos interrogations au terme de l'exposé introductif de Yves. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop débordé.